Donc, je vais vous expliquer la cérémonie de ce soir. Bon, on finit par les connaître avec des années, mais c'est bien de se les remémorer. Donc, elle comporte quatre parties. Tout d'abord, les lectures. Il n'y en a pas autant que le samedi saint, il y en a deux. Ensuite, il y a les oraisons solennelles. Donc, on prie pour toutes les intentions de l'Église, pour tout le monde, finalement. Ensuite, l'adoration de la croix, c'est le sommet de la cérémonie, l'adoration de la croix, puisqu'il y a une indulgence qui est attachée à ceux qui viendront baiser la croix. Et puis, la communion, c'est la quatrième partie, mais c'est la plus courte. Donc, on communie à cette messe-là. Autrefois, il n'y avait que le prêtre qui communiait, donc fidèle sous Pie XII, enfin à partir de Pie XII. Oui. Donc ça a changé, mais c'était un petit peu austère, quoi, puisque le vendredi saint, les fidèles ne pouvaient pas communier. Donc la première partie, les lectures. La première lecture, elle est prise dans Osée, chapitre 6. Je ne vais pas vous les lire parce que sinon on ne pourrait pas tout dire. Donc le premier sens, c'est les Juifs qui sont accablés par les douleurs de la captivité. Le prophète Osée, il est contemporain de peut-être bien d'Isaïe. Il y a trois ou quatre prophètes qui sont contemporains. Ils ont tous vécu la déportation d'Israël pendant 70 ans. Donc lui, le prophète Osée, c'est un prophète des 10 tribus. Il était dans les 10 tribus. Mais Dieu ne peut accorder le pardon aux Juifs que s'ils pratiquent une bonté durable envers le prochain, qui ne passe pas comme la rosée matinale. Donc, il s'exprime comme ça. Dieu n'a que faire de leur sacrifice matériel. Ce qu'il veut, c'est leur cœur. Donc, c'est ce qui ressort de cette lecture. Ensuite, il y a un deuxième sens plus large. Le Seigneur annonce ses vues de miséricorde envers son peuple nouveau. Donc, le peuple nouveau, c'est les gentils, hein, les païens à l'époque. Donc, nous, on est les descendants des païens. Donc, les païens, ils étaient comme morts. Et donc, ça va durer 3 jours. Et le troisième jour, donc ils vont ressusciter avec le Christ qu'ils ne connaissent pas encore. Hein. Donc c'est pour montrer que ça va être rapide, les 3 jours. Hein. Alors il y a bien sûr ces 3 jours s'appliquent aussi au Christ, mais d'une autre manière. Donc pour Éphraïm et Judas, donc Osée il était de la tribu d'Éphraïm, Judas, c'était pas le prophète de Judas, mais enfin Judas c'était le deuxième royaume, donc il y avait Judas et la tribu de Benjamin et les Lévites. Pour Éphraïm et Judas, il n'en sera pas ainsi. Leurs sacrifices matériels n'ont point apaisé Dieu, qui n'aime que la miséricorde et qui rejette ceux qui ont le cœur dur. Donc, on voit comment le bon Dieu a traité le royaume d'Israël, donc qui était infidèle à sa mission. Ils étaient tout le temps en train de tomber dans l'idolâtrie. Ils adoraient des dieux païens, Baal, Bel, c'est à peu près la même chose. Et donc ils élevaient des statues, des temples même, hein, aux dieux païens. Et les rois, donc, ont plus ou moins, surtout les rois d'Israël. Les rois de Juda ont quand même été assez bons. Puis ils ont eu une seule dynastie. Mais les rois d'Israël, ça changeait tout le temps de dynastie. C'était toujours ils se succédaient par assassinat. En gros, c'était à peu près. Ou révolte d'un général de l'armée, etc. En Israël, il y a quand même eu des mauvais rois aussi. Mais, enfin, en Juda. Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'un bon roi pouvait avoir un fils qui soit un roi vraiment mauvais. Et puis, un roi mauvais avait un fils qui devient un bon roi. Quoi. Moi, c'est assez étonnant. Quoi. Bon. Donc, le bon Dieu envoyait beaucoup de prophètes à son peuple. donc les prophètes qui ont annoncé la déportation. Donc il y a eu Isaïe, Jérémie, et bien sûr il y avait des faux prophètes en même temps. Donc les faux prophètes, eux, ils allaient dans le sens du politiquement correct. Donc ils voulaient plaire au roi, et donc ils prophétisaient des bonnes choses. Non, jamais les Nabucodonosor ne viendra pas vous détruire, etc. Enfin, etc. Bon. Mais finalement, ça s'est arrivé. Donc Jérémie a pleuré, c'est les célèbres lamentations de Jérémie qu'on lit le matin, qu'on chante le matin. Et puis, bien les Chaldéens sont venus, et ils sont venus en trois fois, et ils ont fini par emporter une partie du peuple en captivité. Mais avant cela, un siècle avant, le peuple d'Israël, lui, avait été déjà vaincu par les Assyriens. Et donc, ils ont été emportés en captivité à Ninive. Donc, on aurait pu dire, Judas, il va en tirer la leçon. C'est vrai qu'ils ont eu des bons rois, mais finalement, il y a eu un mauvais roi et ça n'a pas suffi pour finalement faire pencher la miséricorde de Dieu. Le dernier bon roi, je ne sais plus lequel c'était, il a vraiment tout fait, il a abattu les sites idolâtriques, etc. Mais malgré ça, ça n'a pas suffi. Et donc les prophètes ont annoncé la destruction de Juda. Alors c'est quand même une... On peut tirer une leçon pour nous aujourd'hui. Il faut se dire, nous on a la France, les promesses, etc., de Saint-Rémy, tout. Oui, mais il faut quand même, il faut quand même qu'il y ait la relève et puis qu'il y ait un peuple fervent qui obtienne la miséricorde de Dieu, quoi. Alors les leçons pour nous, ne soyons pas comme les Juifs qui se sont endurcis. Malgré toutes les œuvres de miséricorde du Seigneur, tous ses enseignements. C'était pourtant des hommes religieux, zélés pour Dieu, mais en apparence seulement. C'était beaucoup l'extérieur. Ils n'ont pas reconnu la visite du Seigneur. Dieu les a rejetés, les a livrés à la destruction par les Romains en l'an 70. Donc, vous voyez, quand le grand prêtre Caïphe fait sa prophétie, les grands prêtres, donc ils prophétisent malgré lui. Il dit, il vaut mieux qu'un homme périsse pour tout le peuple. Effectivement, Jésus va périr, enfin, pour tous. Hein, c'était écrit. De peur que les Romains viennent et finalement détruisent notre ville et enfin, nous emmènent en captivité. De fait, ils ont perdu sous les deux tableaux, quoi. C'est-à-dire que les Romains sont venus quand même, ils ont détruit le temple et puis ils les ont dispersés dans le monde entier, quoi. Et c'était terrible, hein, la prise de Jérusalem en 70 par Titus. Donc c'était les fêtes de Pâques et il y avait à peu près 1 million de personnes à Jérusalem. Donc ils ont fait le siège. Alors la ville était bien fortifiée, c'était presque imprenable, enfin pas imprenable, enfin. Et puis il faut des réserves. Bon, ils avaient quand même de l'eau, il y avait un aqueduc qui apportait de l'eau de sources extérieures, mais finalement ils ont fini par manquer de vivres. Hein. Et puis dans les offices du matin, là, on chante que les femmes faisaient cuire leurs enfants morts à la poêle pour les manger, quoi, pour se nourrir. Et puis les Juifs certains étaient tellement endurcis, parce que les Romains leur ont proposé la paix. Vous voyez, un petit peu comme la paix, la guerre qu'il y a actuellement. On propose la paix, non, jusqu'au dernier. Donc il y a des Juifs qui ont dit non, pas de paix avec les Romains, on mourra jusqu'au dernier. Quoi. Donc alors ils se sont pas entendus entre eux, ils se sont battus entre eux. Donc ils étaient vraiment presque à l'agonie, quoi. Ils n'avaient plus de force puisqu'ils n'avaient plus rien à manger. Mais malgré ça, donc, il y avait une faction qui disait non, on préfère mourir que de se rendre aux Romains. Et puis les autres, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Donc, s'ils étaient rendus aux Romains, les Romains, ils les auraient laissés tranquilles, quoi. Bon. C'est un petit peu la même chose qui s'est passée du temps de Nabucodonosor. quand c'est Jérémie ou Isaïe, donc ils prédisent au roi, parce que Nabucodonosor est venu en trois fois pour prendre Jérusalem. La première fois, il a amené quelques richesses, il a amené quelques prisonniers. Et puis, il a mis un roi juif en Juda, enfin en Israël, parce que ça faisait qu'un peuple à l'époque. Et donc, le prophète disait, il faut être soumis à Nabucodonosor. C'est-à-dire, vous lui payez le tribut, il vous met un roi, et puis vous êtes en paix. Donc, les Juifs n'ont pas voulu de ça. Ils ont dit, non, tu es un prophète, non, on ne suit pas ce que tu dis, c'est pas bon du tout. Donc, ils se sont révoltés contre Nabucodonosor. Ben, Nabucodonosor, c'est la souris qui se révolte contre le chat, quoi. Donc, il est venu, et de fait, là, il a carrément détruit Jérusalem, le temple, et il a emmené une grande partie du peuple, l'élite, en captivité. Il a laissé les paysans, quelques manœuvres, etc. Et puis, ils ont repeuplé en faisant venir des païens un peu partout, pour que la terre ne soit pas laissée à l'abandon. Mais donc, c'est pour montrer que, voilà, il faut savoir voir quelle est la volonté de Dieu. Parce que c'est pas forcément du courage de vouloir être jusqu'au boutiste, de dire, ben, on se bat jusqu'au bout, sauf si on est martyr. Là, c'est différent, parce qu'on demande de renier la foi. Mais quand s'il ne s'agit pas de foi, ben, il vaut mieux, les Juifs, ils n'ont plus de temple. Ils étaient emmenés en captivité en Babylonie. Donc, ils n'avaient plus de temple, donc plus de sacrifice, plus rien. Donc, ils n'avaient plus rien. Bon. Donc, il faut savoir, discerner quelle est la volonté du bon Dieu. Donc, nous, comme Judas, nous ne sommes pas privilégiés. Ben, nous sommes privilégiés, bien sûr, mais il faut faire attention, justement, de ne pas s'appuyer sur ce privilège en se disant, bien, bah, pas de problème, on est dans la tradition catholique, voilà, on a tout ce qu'il faut, donc bah, on n'a pas de souci à se faire. Donc, bah, il faut, bien sûr, par contre, il faut se sanctifier. Hein, il faut se sanctifier. On a la doctrine, on a les sacrements, donc on a des fleuves de grâce qui veulent nous donner la vie en abondance dans nos âmes, donc il faut suivre cette grâce et puis se sanctifier. Il faut se laisser toucher par notre Seigneur et il faut mourir au péché, à nos défauts, au monde, etc. Il faut vraiment qu'on mène de jour en jour une vie nouvelle, quoi. Qu'on soit vraiment des ressuscités avec notre Seigneur. Alors après cette lecture, il y a un trait qui est tiré d'Habacuc, encore un prophète. Habacuc, c'est le prophète qui a apporté son pique-nique à Daniel qui était dans la fosse aux lions. Voilà. Donc l'ange l'a pris par un cheveu et en une seconde, il l'a emmené à Babylone, alors que le prophète ne connaissait pas, il savait pas où était Babylone, etc., ni où était Daniel. Donc dans ce trait qui sera chanté, le texte montre la marche du Fils de Dieu sur la terre. Donc il parle de sa naissance entre deux animaux. Et puis, son apparition de plus en plus lumineuse pendant sa vie publique, et à la fin, ses suprêmes douleurs, donc la croix. Alors, le prophète, il contemple le tableau, il voit le Messie qui est né à Bethléem, ensuite, il y a sa vie publique, je ne sais pas comment c'était présenté, mais enfin, puisqu'il en a écrit les paroles. Et ensuite, sa mort, ignominieuse, et là, il est dans la stupeur, quoi. Il n'arrive pas à le croire, quoi. Donc, il ne peut pas le croire quand il voit ce qui va se dérouler à propos du Messie tant attendu. Et l'oraison qui conclut ce trait et la lecture donc, tire la leçon et demande pour nous à Dieu d'avoir part à la résurrection du Christ. Ensuite, il y a la deuxième lecture, c'est tiré du passage du chapitre 12 sur l'Exode. Donc, c'est la Pâque. C'est la Pâque. Donc la Pâque, il y a une signification, le passage de la mer Rouge, le sang qui est déposé sur les linteaux des portes, etc., des Hébreux. Donc tout ça, tout dans depuis le départ d'Égypte jusqu'à la traversée de la mer Rouge, tout a trait finalement au baptême. Donc c'est la nouvelle, c'est la Pâque. Donc tout d'abord le parallèle entre le sang de l'agneau et le sang du Christ. Donc le sang de l'agneau qui était répandu sur les linteaux des portes, c'était pour protéger les Hébreux de l'ange exterminateur qui allait passer et qui allait exterminer tous les premiers nés des Égyptiens, y compris du bétail. Donc nous, on a le sang du Christ qui nous protège de l'ange exterminateur, donc qui nous protège des démons. Ensuite, le deuxième parallèle à faire, donc quitter l'Égypte pour aller en Terre Sainte, donc c'était ça l'Exode, passer de l'Égypte à la Terre Sainte, ben pour nous c'est quitter la Terre pour le Ciel. La Terre Sainte, c'est le Ciel. Voilà. Et le passage de la Mer Rouge, eh bien, il faut passer par le baptême. Le baptême, donc c'est les eaux du baptême, c'est les eaux de la Mer Rouge. Et le baptême nous donne cette vie de la grâce qui nous permettra d'aller dans la Jérusalem céleste, si on est fidèle. D'autres symbolismes dans tout ce récit. Donc l'agneau pascal était étendu en forme de croix sur deux bâtons. Donc, je ne sais pas comment ils les mettaient, donc forme de croix, puis ils étendaient l'agneau, les pattes donc de devant, les pattes de derrière, etc. Donc ben, ça symbolisait déjà Jésus crucifié. Puis vous savez que l'agneau, il devait être sans tache, sans défaut, il devait être parfait. Donc c'est toujours aussi une figure de notre Seigneur Jésus-Christ qui était parfait. L'agneau devait être mangé en hâte par les Hébreux, ayant la tunique levée, donc prête à marcher en vite. Donc on relève la tunique pour aller plus vite. Le bâton à la main, debout. Donc il fallait être prêt à partir. Donc ça signifie que la vie est courte et qu'on n'a pas le temps de s'arrêter sur le chemin qui conduit à l'éternité. Donc eux, ils partaient pour la terre promise. Eh bien, nous, voilà, quand on mange l'agneau pascal, eh bien, on mange notre Seigneur, on communie notre Seigneur pour pouvoir aller au ciel. Et donc, il ne faut pas s'installer ici-bas sur terre. Une autre chose qu'on peut tirer de ce texte, donc, on assaisonnait l'agneau avec des laitues amères et on mangeait le pain sans levain, donc du pain azyme avec. Donc, ça indiquait, c'était une figure de la Sainte Eucharistie. Et donc, pour communier, eh bien, dans la communion, on commémore la mort de notre Seigneur. Et puis, les laitues amères, eh bien, signifient la pénitence et la mortification de l'esprit qui sont nécessaires, sont des bonnes dispositions pour bien communier. Monsieur le Père en a parlé hier. Cette lecture est suivie d'un répond. C'est un psaume, le psaume 39, dans lequel sont décrits les sentiments de Jésus sur la croix. Donc Jésus sur la croix, il a beaucoup prié. Et bon, peut-être pas le psaume 39, mais le psaume 21, il a prié le psaume 21, qui sont ses sentiments. Ensuite, après ces lectures, il y aura le chant de la Passion. Donc, vous avez remarqué que pendant la Semaine Sainte, on chante, on chante que deux fois, nous, mais on récite quatre fois la Passion de notre Seigneur, selon les quatre évangélistes. Donc, le jour des rameaux, c'est Saint Matthieu. Le mardi saint, c'est Saint Marc. Le mercredi saint, c'est Saint Luc. Et aujourd'hui, ça sera Saint Jean. Saint Jean, lui, il apporte beaucoup de précisions aux trois autres évangélistes. Saint Luc, ben, il n'était pas sur place. Saint Marc non plus. Et Saint Matthieu, lui, il était un apôtre, donc il était témoin. Mais Saint Jean, lui, il apporte des précisions, parce qu'il était quand même un témoin privilégié, surtout pendant l'arrestation et pendant les pérégrinations de Jésus chez Anne et Caïphe, le grand prêtre. Donc, dans la passion de Saint Jean, ressort un petit peu l'émotion qu'il avait. Voilà, l'émotion. Il l'a fait passer un petit peu dans notre âme. Et donc, il a fait ressortir l'enseignement de Jésus dans ses colloques avec Pilate. Parce que Pilate, il interrogeait Jésus, c'était pas devant les Juifs, c'était dans le prétoire. Donc on va dire, qui c'est qui a entendu le dialogue entre... Donc certainement que Saint Jean, soit il connaissait des soldats de la garde, puisqu'il y a bien un centurion qui s'est converti. Le couronnement d'épines, c'est pareil, c'est les soldats dans leur caserne. Donc il faut croire que parmi les soldats, il y avait un centurion ou quelques-uns qui sont convertis, puis qui ont témoigné de ce qui s'était passé. Ou alors Saint Jean, il connaissait quelqu'un, comme pour chez le grand prêtre, apparemment il était parent du grand prêtre, et donc il a pu voir la servante pour pouvoir rentrer dans la cour, etc., suivre les débats. Il a dû assister certainement aussi à l'audience de Jésus. Et donc c'est pour ça qu'il rapporte des choses qui sont bien, bien plus précises que les autres. Et donc on voit bien Jésus dans dans ses colloques avec Pilate. C'est lui le maître, en fait. C'est lui qui dirige. C'est lui le prisonnier, mais c'est quand même lui qui dirige les choses. Oui. Et Pilate, il est un peu décontenancé, il ne sait pas trop comment faire. Jésus essaie de le tirer vers la vérité, mais bon, ça n'a pas bien marché. Donc ensuite, après ce chant de la Passion, il va y avoir les oraisons solennelles. Donc ces prières remontent au premier siècle de l'Église. Pour bien comprendre cette prière, il faut se placer au pied de la croix où Jésus vient de consommer son sacrifice. Ce que le prêtre qui personnalise l'Église va chanter, c'est la prière de Jésus en croix. Il faut toujours se dire ça. Voilà. Donc Jésus en croix, qui dit Saint Paul, dit qu'il a offert pour tous les hommes des prières, des supplications, mêlées de larmes et accompagnées d'un grand cri. Donc pendant au moins 3 heures sur la croix, Jésus il a prié. Donc il a prié pour toutes les intentions. Donc ces oraisons-là traduisent toutes les intentions de prière de Jésus qui sont dites par son Église. Et donc personne n'est oublié dans ces prières. Donc comment elle se passe? Il y a d'abord une annonce qui explique l'objet de la prière. Et puis après, le diacre invite à se mettre à genoux, prier, rectam ou genoux. Et puis ensuite, le prêtre chante l'oraison. Alors, tout d'abord, l'Église. Donc Jésus a prié pour son Église. Il a fondé son Église. Là, il va mourir sur la croix. L'Église, elle sort par son côté ouvert de la croix. Et il a institué ses apôtres. Et donc, il prie pour son Église. Donc, vous voyez la prière d'annonce préparatoire. Donc, le prêtre dit, donc, prions nos très chers pour la Sainte Église de Dieu, afin que Dieu, notre Seigneur, daigne la pacifier, la réunir, la protéger sur la terre entière, en lui soumettant les autorités et les pouvoirs, et qu'il nous accorde de mener une vie paisible et tranquille pour glorifier Dieu, le Père Tout-Puissant. Donc notre Seigneur, sur la croix, il prie pour son Église à travers tous les siècles. Il sait bien qu'il y aura des moments difficiles, notamment le temps de l'Antéchrist, mais aussi notre temps actuel, qui est déjà un temps précurseur de l'Antéchrist. Voilà. Et donc, s'il a dit que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre elles, c'est sa prière qui a assuré ça. Ensuite, donc, la prière elle-même. Donc, Dieu Tout-Puissant Éternel, qui avait révélé votre gloire à toutes les nations unies au Christ, protégez l'œuvre de votre miséricorde, afin que votre Église, répandue dans le monde entier, persévère par une foi immuable et à glorifier votre nom. Donc, notre Seigneur, il a vu le développement de son Église. Puisqu'il est Dieu, il a vu. Dans le psaume 21, qui commence par « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» On se dit « ah, ben oui, mais dans le psaume, ça finit bien. » Au contraire, notre Seigneur, il voit tous les fruits de sa rédemption avec la multitude de frères qu'il va pouvoir emporter au paradis. C'est dans le psaume 21, tout ça. Donc, Jésus voit son Église qui va se développer, Et donc, il prie pour cela. Et il offre son sacrifice pour elle. Donc, ensuite, il y aura le pape qui n'est pas oublié. Donc, voilà, il a vu tous les papes depuis Saint-Pierre. Saint-Pierre qui a renié, le premier. Bon, ben, après, il est revenu. Puis tous les papes. Donc, les bons, les mauvais, les saints, etc. Jusqu'à la fin. Donc, il a vu aussi notre temps avec le pape François. Voilà, donc qui ne peut plus parler. Il est obligé de faire la rééducation. Et il ne peut plus parler. Bon, peut-être qu'il va apprendre beaucoup de choses. Il ne peut plus parler parce qu'il a quand même dit des choses. Quand il pouvait parler, il n'a pas toujours dit des choses qu'aurait dû dire le pape, quoi, hein, notamment par rapport à l'Immaculée Conception. Ben là, du coup, il en a perdu la parole. Bon. Ensuite, on prie pour les ministres de l'Église et les fidèles, pour les chefs d'État, pour les catéchumènes. Donc, nous, on en a une cette année, catéchumènes. Bon, à Saint-Nicolas, ils en ont toujours beaucoup, eux. Pour l'unité de l'Église, pour la conversion des Juifs. Donc, pour la conversion des Juifs, et là, on ne fléchit pas les genoux, hein, voilà. Parce que, voilà, eux, ils sont moqués de Jésus, et ils sont, donc, nous, pas en souvenir de ça, on marque le coup. Alors les Juifs, ils ne sont pas contents, ils auraient voulu faire changer la liturgie. De même que le texte de la prière, qui est un texte qui est beau, quoi. Donc les Juifs, ils se convertiront, on le sait. Saint Paul, il l'a annoncé, hein. Ils se convertiront au moment de l'Antéchrist, hein. Alors déjà, il y a quand même eu quelques conversions dans l'histoire de l'Église. Les Juifs convertis, ça donne quelque chose de... C'est vraiment... C'est tonique, quoi. Hein, parce que c'est quand même le peuple élu d'autrefois. Et donc, ils connaissent quand même la Sainte Écriture, même s'ils ne la comprennent pas. Mais alors, quand ils se convertissent, alors là, ils la voient, c'est lumineux. Et donc, ils sont très, très, très fervents. Hein. Donc, voilà la préparation. Prions aussi pour les Juifs perfides. Donc, c'est ce mot-là qu'ils n'aiment pas trop. Je vous ai expliqué après. Perfide, ça veut dire qu'ils ont perdu la foi. Ils n'ont pas eu la foi. Et les Messie, ils n'ont pas reconnu. Ils ont perdu la foi. Donc, ça a un autre sens maintenant. Perfide, ça veut dire un peu... Bon, enfin, ils ont aussi l'autre sens aussi. Donc, afin que Dieu, notre Seigneur, enlève le voile qui couvre leur cœur et qu'ils reconnaissent eux aussi Jésus-Christ, notre Seigneur. Et puis, donc, il n'y a pas de fectam génois, là. Ensuite, l'oraison, Dieu Tout-Puissant Éternel, qui ne repoussez pas de votre miséricorde même la perfidie juive, exaucez nos prières que nous vous offrons à cause de l'aveuglement de ce peuple, afin que, connaissant la lumière de votre vérité qui est le Christ, ils soient délivrés de leurs ténèbres. Et donc, nous, il faut qu'on soit des témoins pour que eux, ils ont toujours quelque chose à côté là qui les embête, mais qui leur dit, le Christ, bah, il est déjà venu. Pas à faire comme les modernistes qui disent, bah, nous attendons le Messie avec vous. Alors, bah, attendez, comment voulez-vous après qu'ils se convertissent? Si on leur dit, bah, on attend le Messie avec vous. Alors, c'est un langage ambigu, mais c'est un mensonge. On l'attend à la fin du monde. Oui, mais d'accord, mais il est déjà venu. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que eux, si on leur laisse croire qu'on l'attend, celui qu'ils attendent eux, les démenteurs. Donc, alors, nous, on est là pour justement les aider à se convertir. Alors, si on va dans leur sens, ben, ils vont pas se convertir. Voyez. Enfin, on termine par les infidèles. Et après, donc, il y aura la cérémonie de l'adoration de la croix. Donc, l'adoration de la croix. Ça remonte, il faut remonter à Jérusalem au 4e siècle du temps de Sainte Hélène, l'impératrice, lorsqu'elle découvrit la vraie croix. Parce que bah, avant, on ne pouvait pas adorer la croix, on ne l'avait pas retrouvée. Bon. Donc là, en retrouvant la vraie croix, et on a pu l'identifier parce qu'il y a eu un miracle, hein, il y a eu une guérison, parce qu'il y avait trois croix, donc quelle était la bonne? Donc ils ont fait toucher la croix, je ne sais pas si c'était un malade ou... enfin, ou quelqu'un. Bon, enfin, en tout cas, il y a eu un miracle qui a identifié la vraie croix. Et donc, à partir de ce moment-là, Sainte Hélène a fait construire une basilique, etc., pour mettre en honneur la croix. Et on a décidé d'adorer une fois l'an, le vendredi saint, la croix. Mais ça se faisait qu'à Jérusalem. Donc, tous les autres chrétiens dans le monde, il n'y avait pas d'adoration de la croix, ça n'existait pas. Donc, tous les fidèles ne pouvaient pas se rendre à Jérusalem. Donc, vers le 7e siècle, donc, vous voyez, c'est quand même tard, attendre 700 ans, on imita dans toutes les églises, le vendredi saint, l'ostension et l'adoration de la croix qui avait lieu à Jérusalem. Donc, on s'est dit, on va faire comme à Jérusalem. Mais 7 siècles après, donc ça a mis du temps, vous voyez. Donc, c'est de là qu'est né le rite qu'on a aujourd'hui. Alors, il faut faire un petit rappel sur l'adoration de la croix. Parce que les protestants, justement, ils reprochent aux catholiques. Ils disent, vous êtes des... Vous faites de l'idolâtrie, vous adorez du bois, voilà, etc. Ou des images, etc. Donc, eux, ils étaient très remontés là-dessus. C'est pour ça qu'ils cassaient les croix, ils brûlaient, enfin, les statues et tout ça. Donc, l'adoration, qu'est-ce que c'est ? C'est l'acte externe de la vertu de religion par lequel nous manifestons l'excellence divine et notre parfaite soumission. Donc, quand on adore, on se prosterne, on s'estime rien devant la divinité. En gros, c'est ça. Donc, au sens plus large, c'est l'acte par lequel on exprime l'honneur à un autre en raison de sa supériorité, de son excellence, manifestant ainsi notre soumission. En Orient, quand on se présentait devant un roi ou je ne sais pas quoi, enfin une personnalité, on se met à genoux puis on se prosterne, comme les musulmans. Voilà, on adore. Voilà. C'était ça, adorer, c'était se prosterner pour marquer la supériorité de la personne à laquelle on s'adresse. Donc, il y a différents types d'excellence. La plus grande, c'est l'excellence divine. Donc là, c'est un culte de l'atrie qui n'est dû qu'à Dieu. Ensuite, envers les saints, ils sont saints, donc ils sont supérieurs à nous qui sommes pécheurs. Donc, on leur offre un culte de duly. Voilà, un culte de duly. Et puis, il y a une excellence naturelle envers les autorités civiles. Bon, là, donc, il y a des marques de respect, etc., qu'on doit faire. C'est normal. Donc, l'adoration, elle est à la fois interne et externe. L'adoration extérieure est nécessaire pour signifier l'adoration intérieure. Parce que si on cache intérieurement, qu'on ne le signifie pas, eh bien, ça peut prêter à des quiproquos, vous voyez. Saint Paul dit que la foi doit être manifestée extérieurement. On doit proclamer sa foi dans certaines circonstances pour être sauvé. Si on ne le fait pas, on dit je garde la foi. Là, je ne sais pas où vous allez dans, une cérémonie quelconque, etc. On oblige à renier sa foi. Vous ne participez pas. Intérieurement, vous avez toujours la foi, mais vous n'avez pas proclamé votre foi. Vous dites rien. Non. Là, c'est pécamineux, quoi. Donc, ça doit s'exprimer extérieurement. Donc, c'est un signe public. Un signe public. Donc, c'est pour ça que l'adoration de la croix, ce soir, c'est public. Voilà, une vraie croix, on fait une procession, on vient baiser la croix. Donc, nous, il y a juste le culte de l'atrie qui nous intéresse ici. Donc, c'est un culte absolu, on honore Dieu pour son excellence propre. Donc, en adorant la croix, on ne va pas faire un acte d'idolâtrie, comme le disaient les protestants. Parce que, quand on est entre catholiques, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais si vous étiez avec des protestants, vous avez des contacts avec des protestants par votre travail ou pour autre chose, Et puis, bah, il vous dit, bah, tiens, vendredi saint, qu'est-ce que vous faites, vous? Bah, nous, on était adorer la croix. Oh, vous avez adoré la croix, le bois de la croix, etc. Vous êtes des idolâtres, etc. Ah, qu'est-ce que vous allez répondre? Vous voyez, il faut savoir répondre. Parce qu'eux, bah, ils se posent des questions, hein, c'est normal. Donc, on n'est pas des idolâtres, on honore l'instrument choisi par notre Seigneur pour accomplir notre salut. Donc, pour que la doctrine exacte de l'Église romaine touchant le culte du crucifié et des saintes images demeura constamment sous le regard des hérétiques, saint François de Sales, donc qui a reconquis tout le Chablais, 70 000 personnes à la fois catholiques, il a fait peindre sur une croix dressée à la sortie d'Annemasse, en Savoie, sur une plaque de métal, ce petit poème. Parce que là, tous les protestants, il y a beaucoup de marchands, ils passaient par là. Et donc, eux, ils étaient persuadés que les catholiques étaient des idolâtres, ils adoraient la croix, des statues, etc., de saints. Donc, il a fait graver ceci: ce n'est pas la pierre ou le bois que le catholique adore, mais Dieu, lequel, mort en croix, de son sang, la croix honore. En plus, en vert, voilà. Donc tous les protestants genevois qui passaient par là, donc, ouais, tiens, les papistes, qu'est-ce qu'ils ont marqué là? Qu'est-ce qu'ils ont mis là? Donc ils disaient, voilà, ce n'est pas ce qu'on. Alors eux, ils disaient, ah bon? Ben, c'est pas ce qu'on nous a dit, c'est pas ce qu'on nous a enseigné, vous voyez? Donc ils ont eu après des bons sentiments vers les catholiques, et du coup, ça les a rapprochés de la religion catholique, et ils ont pu facilement se convertir. Donc, pour nous catholiques, cela semble évident. Mais quelqu'un d'étranger pourrait croire que les marques de vénération, d'adoration que nous allons exprimer ce soir, eh bien, sont des actes d'idolâtrie. Donc, il est important de savoir expliquer ces actes à des gens qui ne savent pas. Donc, ce n'est pas le bois que j'adore, mais c'est mon sauveur sur ce bois, c'est ce qui est dans le cantique, donc on chante. Ensuite, il y a une ostension de la croix, où on chante Saint, Saint, Dieu fort, Dieu saint et saint immortel, donc en latin puis en grec. Donc c'est une triple confession de foi. Pourquoi est-ce qu'on le fait trois fois? Une triple confession de foi. Alors, Père Mortier, un petit commentaire intéressant. Donc, devant la croix de Jésus, l'Église confesse sa foi. Et cette confession de foi est en même temps une protestation d'amour. Aux Juifs qui ont condamné Jésus comme coupable de blasphème parce qu'il a dit « Je suis le Fils de Dieu », elle crie « Jésus est le Saint, est le Saint Dieu, le Saint d'Israël. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. » Donc on dit notre foi. Jésus, oui, il est cela, pour aller un petit peu contre ce qu'ont dit les Juifs en le condamnant de blasphème. Aux bourreaux qui l'ont saisi, insulté, frappé, crucifié, l'Église crie « Jésus est le saint fort, le puissant ». Là, il se laisse faire, parce qu'il le veut bien, mais s'il avait voulu, il ne serait pas laissé faire. Au jardin des Oliviers, quand Judas, avec la cohorte, une cohorte, c'est plusieurs centaines d'hommes, vient l'arrêter avec des bâtons, des épées, etc., Jésus, il vient de au-devant. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. C'est moi. Tout le monde tombe par terre. La puissance. Rien que ces mots, c'est moi, ils tombent tous par terre. Ils avaient peut-être un peu peur parce qu'on dit, ah, oh, saint Thaumaturge, qu'est-ce qui va se passer? Attention, tout le monde tenait son épée là. Et oui, mais ils n'ont pas tombé de peur. C'est des soldats, hein. C'est quand même pas des poules mouillées. Donc, vous voyez, le seul mot, c'est moi, ils tombent tous par terre. Alors quand ils se relèvent, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont un peu peur. Donc, après, Jésus se livre à eux. Donc, il se laisse faire. Mais, vous voyez, il a montré sa puissance. Donc, s'il se livre à eux, c'est parce qu'il le veut bien. Donc, s'il a souffert, s'il a été crucifié, c'est qu'il l'a voulu. Ne pourrais-je pas dire à mon Père de m'envoyer 12 légions d'anges pour me protéger, disait-il à ses apôtres au Jardin des Oliviers et à Pilate. Et à Pilate, tu n'aurais aucune puissance sur moi si elle ne t'avait été donnée d'en haut par Dieu, Saint, le fort, ayez, donc Dieu Saint, Dieu fort, ayez pitié de nous. Vous voyez ? Donc on dit, Jésus, c'est le Dieu fort, le Dieu tout-puissant. Vous voyez ? S'il s'est livré, s'il a été tourné en ridicule, etc., réduit à rien du tout, c'est parce qu'il l'a voulu. C'est pas par la force des Romains, par la perfidie des Juifs, etc. Oui, bien sûr, ils ont fait leur rôle, mais eux, c'était des exécutants de ses volontés. Hein. Et la croix couverte d'un voile, qu'on dévoile tout doucement, eh bien, ça signifie l'aveuglement du peuple juif qui ne voit qu'un instrument de scandale dans la croix. Donc, elle est voilée pour eux. Donc, les trois ostentations, la première, donc, c'est la prédication de la croix par les apôtres, entre eux, avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Ensuite, la deuxième ostentation, c'est la prédication du mystère de la croix aux Juifs. Donc, ça s'étend à tout Israël. Et puis, la troisième ostentation, c'est la prédication du mystère de la croix au monde entier, donc au peuple païen, qui se produira après la Pentecôte, enfin un petit peu encore après la Pentecôte. Donc il y a des prières qui accompagnent l'ostension de la croix. Donc elles s'adressent d'abord au peuple juif, ensuite, eh bien, ça s'adresse à nous. Voici le texte d'une des prières. Tu as donc oublié toutes les grâces que je t'ai accordées, les victoires remportées, les joies reçues. Pour tous ces bienfaits, aujourd'hui, tu me crucifies à ton tour. Tu me donnes à boire du vinaigre et du fiel. Donc, c'est toutes les impropères, oui, les prières de Jésus, enfin, qui sont qu'on met dans la bouche de Jésus, qui fait des reproches à son peuple. Donc, je t'ai fait traverser la mer Rouge, je t'ai conduit dans le désert, je t'ai nourri de la manne, etc. Pourquoi me persécutes-tu? C'est pour tout ça? Et donc, on peut rajouter tous les miracles qu'il a fait pendant sa vie publique. Tous les malades guéris, une multitude de malades, les démons chassés, etc. Donc, c'est pour cela que tu me crucifies, etc. Vous voyez? Donc, nous, on peut aussi l'appliquer pour nous. On pourrait dire, Jésus nous a appelés à être membre de l'Église par le baptême. Et puis, chaque fois qu'on pêche, c'est pour tout ce que je t'ai donné, là, etc. Tous les sacrements, etc. Toutes les grâces que je t'ai données. Pour tout cela, toi, tu fais ça encore maintenant. C'est pour ça que tu fais ça, par tout ce que je t'ai donné. Vous voyez, l'ingratitude. Donc, la gratitude des Juifs, elle est plus grande. Mais nous, on est aussi ingrats, d'une certaine manière. Donc il faut se dire, notre Seigneur a donné sa vie pour nous, il nous a fait venir dans son Église, donc il faut vraiment qu'on marque notre gratitude en se donnant de plus en plus à lui. Donc le salut de la croix, il y a trois antennes, c'est ça la fin de la cérémonie. Trois antiennes. Dans la première, donc Seigneur, nous adorons votre croix, donc c'est chanté, nous rappelons votre glorieuse passion, ayez pitié de nous qui avez souffert pour nous, etc. Et donc le Père Mortier, donc le Père Dominicain, commente ceci ainsi, le salut vient de la croix et avec le salut, la joie. Sans Dieu, l'être joyeux par essence, où trouver la joie, celle qui est vraie et demeure. Chose extraordinaire et digne de la sagesse de Dieu, La plus effroyable douleur produit la joie parfaite, la joie immuable, celle qui est Dieu lui-même. Donc c'est l'antienne. Par votre croix, la joie s'est répandue dans le monde. Donc la joie de la vérité, savoir avec certitude ce qu'est Dieu en lui-même, sa vie à lui, et ce qu'il est pour nous, un père. On est habitué forcément, mais quelqu'un qui se convertit par exemple, ben, il découvre ça et de fait c'est une grande joie intérieure, quoi. La joie de le posséder un jour sans jamais le perdre, se dire en toute certitude « je le verrai de mes yeux, je serai à ma manière de créature ce, je serai à ma manière de créature ce qu'il est, sa joie sera la mienne, en vérité par la croix, la joie est dans le monde. » Alors, la joie, elle est dans le monde, mais ce n'est pas la joie mondaine, c'est sûr. Mais même, regardez les martyrs. Les martyrs, ils ont souffert terriblement quand on voit les tortures. Mais ils étaient dans la joie. Mais c'était une joie surnaturelle. Et ils sentaient la douleur. Mais ils avaient la joie en même temps, vous voyez ? Parce qu'ils avaient la joie. Ils vont entrer au ciel, imaginez. Encore quelques heures, là, vraiment à souffrir des choses horribles. Mais je vais au ciel et pour une éternité de bonheur. Donc ça, donc du coup, cette joie-là, cette attente, elle tombe déjà sur eux et donc ça les rend prêts pour le martyr, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que la croix va avec joie, mais on ne le comprend pas. Mais c'est cette croix qui nous permet, enfin qui nous permet de gagner le ciel finalement. Et donc là, c'est la joie éternelle. Donc elle donne déjà de la joie ici-bas, ouais, rien que de cette pensée. Ouais. Voilà, donc préparez-vous bien à cette cérémonie.